Kiosque Magazine.
Bonjour, chers éditeurs, bonjour, chers éditrices. Bienvenue à notre Kiosque Magazine de ce mercredi matin, 20 mai, il est 9h. Je suis Christine Boucard qui vous parle. Avec moi, Louise Mercier. Bonjour, Louise. Anne-Marie Simard. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, dans cette première demi-heure?
Mais moi, je vais parler un peu des styles d'apprentissage des enfants qui sont différents s'ils sont des filles ou des gars en général. Et j'ai deux autres articles. Il y en a un qui parle de l'éloge de la bédaine et l'autre, l'éloge de la musculation.
Alors moi, dans un premier temps, Christine, je vais vous parler de l'hypersensibilité qui a réussi à être corrigée chez les souris, alors à quand chez les humains? Et dans un deuxième temps, je vais vous parler d'une enquête qui a été visée dans le magazine FA, quand la chimie explique l'amour.
Bien, tout ça nous semble bien intéressant. Pour ma part, je vais vous parler de l'exposition des enfants au Wi-Fi, de ses dangers. Ensuite, en deuxième partie de l'émission, il sera question du système nerveux simplifié, c'est-à-dire de quoi sommes-nous faits, en fait. Alors, je vous souhaite une bonne émission et puis la parole est à Anne-Marie.
Alors bon matin, des biologistes ont identifié la cause de l'hypersensibilité sensorielle qui touche un grand nombre d'autistes et réussi à la corriger chez les souris. C'est un texte de Guillaume Jacquemont. Avez-vous déjà été ébloui par des néons de supermarché au point que cela en devienne douloureux? Le simple fait de porter des vêtements est-il désagréable? De nombreux autistes sont victimes d'hypersensibilité sensorielle, susceptibles de toucher tous les sens. L'équipe du Dr Andreas Frick à l'INSERM a découvert le mécanisme cérébral en cause et réussi à résoudre le problème chez la souris. Les troubles du spectre autistique touchent environ 650 000 personnes en France, dont 150 000 enfants. Ils se manifestent par divers symptômes, notamment un manque de sociabilité, des difficultés à communiquer et des comportements répétitifs. Près de 90% des personnes touchées souffrent aussi d'un défaut de traitement de l'information sensorielle, entraînant une hypersensibilité ou, au contraire, un manque de sensibilité, voire les deux. Ce défaut peut toucher n'importe quel sens, voir tous à la fois, et se révéler très handicapant au quotidien. Les chercheurs se sont intéressés à l'un des troubles du spectre autistique, le syndrome du X-fragile. Ce trouble est dû à une mutation génétique et entraîne, une déficience intellectuelle. C'en est d'ailleurs la première cause héréditaire. Les biologistes ont travaillé sur des souris qui présentaient les symptômes et la mutation génétique caractéristique du syndrome d'X-fragile. Ils ont d'abord testé leur réponse à une stimulation tactile, toucher la moustache ou la patte, pendant qu'ils mesuraient l'activité électrique de leur cerveau. Les neurones du cortex sensomotoriel des souris qui traitent les informations tactiles se sont révélés être hyper-excitables, c'est-à-dire qu'ils s'activent plus souvent et émettaient plus d'un flux nerveux que ceux d'une souris normale, ce qui conduirait à une réponse excessive aux stimuli sensoriels. Alors, ils avaient constaté pour d'autres de stimuli, notamment auditifs. Les chercheurs ont ensuite chercher à comprendre pourquoi. Le syndrome d'X-fragile est causé par la mutation du gène codant une protéine MMRP. On savait que cette protéine interagit avec de nombreuses molécules et qu'elle était liée à la plasticité cérébrale, mais des études récentes ont montré qu'elle régule aussi l'activité de certains canaux ioniques. Or, ces canaux intégrés aux membranes cellulaires, qui s'ouvrent et se ferment pour régler les flux d'ions dans la cellule, sont un élément clé de l'activité électrique des neurones. La mutation du gène de la protéine pourrait-elle en rendre ces symptômes dysfonctionnels? C'est ce qu'ont vérifié Frick et ses collègues. Ils ont identifié deux types de canaux ioniques dont l'activité était perturbée, ce qui conduisait à l'hyperexcitabilité des neurones. En administrant aux souris une substance pharmacologique qui cible certains de ces canaux, les biologistes ont réussi à leur rendre une activité normale et à atténuer l'hypersensibilité des animaux. C'est donc une piste sérieuse pour un nouveau médicament, même si de divers paramètres restent à améliorer, notamment la durée pendant laquelle la molécule est efficace. En outre, certains résultats préliminaires suggèrent qu'agir sur ces canaux ioniques pourrait aussi améliorer d'autres symptômes de l'autiste, tels que les déficiences sociales. We'll be right back.
Alors, tout à l'heure, je disais que j'avais un article sur les différentes manières d'apprendre. Donc, ça a été publié dans la Presse Plus le 18 mai par Isabelle Audet. Alors, c'est « Voyons comment tu apprends ». Lorsqu'il a commencé sa carrière d'enseignant, Richard Angeloro a rapidement constaté que, naturellement, ses méthodes différaient de celles de ses collègues enseignantes. Son approche semblait plaire à une majorité de garçons, mais voilà, il voulait aussi rejoindre les filles. « Il y avait dans ma façon de faire une sorte de complémentarité avec mes collègues femmes. Je me suis intéressée de près aux différences entre les garçons et les filles pour pouvoir enseigner efficacement aux deux groupes. » Au fil des années, il est arrivé à une conclusion. Dans sa classe, il remarque qu'il y a des jeunes qu'il place dans le spectre actif et d'autres dans un spectre plus affectif. L'enseignant, qui est aussi orthopédagogue, évite sciemment de diviser les garçons et les filles en deux groupes distincts, car il constate que de plus en plus de filles se retrouvent dans le groupe des actifs et que plusieurs garçons sont de type plus affectif. N'empêche, il y a une dominante masculine chez les actifs et féminine chez les affectifs. Certains enfants se situent aussi à la frontière entre les deux groupes. Concrètement, d'après M. Angeloro, les enfants du groupe actif ont besoin de manipuler l'information pour mieux la comprendre. Ils aiment déconstruire un problème mathématique ou encore un texte pour mieux le reconstruire. Aussi, rien ne leur fait plus plaisir que de se retrouver dans un mode de saine compétition. De leur côté, les élèves du type affectif vont apprendre aisément dans un mode plus classique, où l'on récite des mots pour les apprendre, par exemple. Ils ont aussi plus de facilité que leurs pairs avec l'abstraction. Dans un exercice d'écriture, on va voir que les actifs vont mettre l'accent sur le verbe et les affectifs vont se concentrer sur la description. Si on leur demande de bonifier un texte où on a une souris comme personnage, par exemple, les premiers vont s'intéresser à ce qu'elle fait, à ses actions. Les autres vont mettre l'accent sur les adjectifs surtout. Pour accrocher les élèves des deux groupes, on va travailler sur ce qui les intéresse, Richard Angeloro, enseignant. Pas question, donc, de se limiter bêtement aux besoins de bouger des garçons. Dans une compréhension de lecture, on demande souvent aux enfants comment ils se sentent par rapport au texte. Les enfants actifs, eux, ça ne les intéresse pas. Par contre, si on leur demande de préciser ce qui peut se passer si l'histoire continue, la façon dont ils pensent que les voleurs sont sortis, par exemple, là, on retient leur attention, soutient-il. L'apprentissage des mots de vocabulaire aussi varie d'un groupe à l'autre. Si les élèves qui se trouvent davantage du côté affectif arrivent facilement à apprendre une série de mots par cœur, ça n'a aucun sens pour les jeunes actifs. Ils ont besoin d'un défi, de partir à la conquête des mots. Par exemple, découvrir pourquoi le mot « doigt » s'écrit avec un « g » et un « t » à la fin. Déconstruire le mot pour mieux l'apprendre. Au fil des années, Richard Angeloro a bonifié son approche, qu'il a d'ailleurs enseigné à des étudiants à la maîtrise en enseignement à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, il travaille auprès d'enfants au nord de Chibougamau. Complexe, cette différenciation? Depuis des décennies, on a appris à diviser les types d'apprentissage en trois groupes. Les auditifs, les visuels et les kinesthésiques. Bref, ceux qui ont besoin d'entendre, de voir ou de toucher pour comprendre. Aujourd'hui, on parle surtout des groupes verbal et non-verbal, ainsi que séquentiel et non-séquentiel. À la maison, il y a de quoi en perdre son latin. A-t-on vraiment besoin de comprendre toutes ces nuances pour aider un enfant à étudier? Peu importe la façon de déchiffrer comment un jeune apprend, l'idée est surtout de l'amener à mieux se connaître. Ultimement, il pourra travailler avec ses forces et ses défis, précise Marie-Claude Beaulieu, orthopédagogue et auteure du guide « Au retour de l'école ». À l'école, on est de plus en plus conscient de la différenciation pédagogique. C'est dans les maisons que ce n'est pas encore rendu, ou si peu. Le parent, lui, ne comprend pas pourquoi le prof a donné une façon bizarre de faire le plan. Marie-Claude Beaulieu, orthopédagogue. Sans se prononcer sur la méthode de Richard Angeloro, elle abonde dans le même sens. Tous les enfants ne captent pas l'information de la même façon et imposer une seule et unique méthode, c'est faire fausse route. Elle fait remarquer qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre et de répéter ce qui a été expliqué. D'autres, au contraire, ont besoin de faire les choses et qu'on les fasse avec eux. Ensuite, la façon de traiter l'information varie aussi. Il y en a qui vont privilégier le travail en étapes et d'autres qui ont besoin de tout voir en même temps. Ça, c'est un peu plus brouillon. Là, on s'accroche avec nos enfants. Là où on s'accroche avec nos enfants, c'est quand on n'a pas les mêmes façons de faire qu'eux. On voudrait leur imposer notre façon parce que, par exemple, on les trouve trop brouillons. Mais ça ne fonctionne pas. C'est comme si on leur coupait les ailes. Un jeune qui a un exposé oral à faire, si on reconnaît qu'il doit voir toute l'information en même temps, ça va être bien plus payant de faire une tempête d'idées sur une feuille. Il mettra ses idées en ordre par la suite. Au fil du temps, amener un enfant à se connaître peut être payant. Le jeune qui est très séquentiel va se faire des résumés avant un examen, comme on se faisait dans le temps, sur des fiches. Par contre, le jeune qui est plus simultané, lui, son résumé tiendra sur une même page ou une page par chapitre. Il illustre l'orthopédagogue. Apprendre à apprendre. Sans procéder à une évaluation en bonne et due forme de son enfant, Richard Angeloro et Marie-Claude Beaulieu estiment qu'un parent à l'écoute peut comprendre ce qui capte l'attention de son enfant lorsqu'il est en situation d'apprentissage. Il peut alors le lancer sur des pistes. Et si tu te faisais un graphique avec toutes les informations à apprendre pour ton examen de sciences? Finalement, un jeune qui se connaît mieux s'adaptera plus facilement au fonctionnement de l'école, qu'elle soit au départ conçue pour lui ou pas. C'est exactement ça, insiste Richard Angeloro. Le jeune devient alors en contrôle de qui il est, de son travail d'apprenant. Il peut mieux se mobiliser. Il va être capable de prendre ce qui lui est présenté, que ce soit de sa façon d'apprendre ou non, et de le transformer pour en faire quelque chose de positif. Une règle pour tous? En attendant de mieux se connaître, les élèves ont ces jours-ci toutes sortes d'examens. La troisième étape au primaire et au secondaire vaut d'ailleurs pour 60 % de l'année scolaire. Bonjour le stress, à l'heure des devoirs dans certaines maisons. Existe-t-il une méthode d'étude efficace pour tous? Règle générale, explique Marie-Claude Beaulieu, le mieux est de transposer en images ce qu'on lit, lire un chapitre et en faire un résumé ou un schéma, et de parler de ces images, vulgariser à voix haute, en faire une petite présentation. Bref, utiliser ses forces pour éviter à tout prix d'être passif. En gros, il faut que ce qu'on lit, on s'en fasse des images, et ce que l'on voit, on s'en parle. On veut que l'information voyage entre les hémisphères du cerveau, car quand on ne fait que lire, en général, on ne retient que 10 % de l'information.
Les enfants qui pleurent ne sauront jamais ni compter les heures. Ni le temps qu'il fait, j'ai connu Martine, elle avait 13 ans quand sonnait matine au clocher du temps, ma voiture. D'un chagrin d'amour, et derrière la porte, je t'attends toujours. J'ai quitté l'école pour courir la mer, mais sauront jamais la moitié de ce que je sais.
Les enfants qui pleurent, c'était une chanson de Michel Legrand. Alors, je vais vous parler d'un article qui concerne l'exposition Wi-Fi, en fait, en lien avec le texte de Louise. À l'heure des tablettes numériques et de l'apprentissage à l'école, il y a certainement des questions à se poser. Il faut réduire l'exposition des enfants au Wi-Fi, nous dit le docteur Anthony B. Miller, c'est dans un article d'André Fauteux, dans la maison du 21e siècle, hiver 2015. Les enfants devraient réduire leur exposition aux émissions du Wi-Fi et les femmes enceintes devraient éviter de mettre un portable ou une tablette sur leur ventre, conseille le docteur Anthony B. Miller, directeur de la division de l'épidémiologie à l'Institut national du cancer de 1971 à 1986. Selon ce professeur émérite de santé publique à l'Université de Toronto, les dernières études démontrent qu'à long terme, s'exposer plusieurs heures par jour à de faibles doses de radiofréquences émises par des antennes et appareils sans fil est probablement cancérogène. Aujourd'hui, des connexions Internet sans fil, donc ce qu'on appelle le Wi-Fi, sont installées dans la plupart des salles de classe du pays, avec la bénédiction des autorités sanitaires qui les disent sécuritaires. Or, plusieurs enseignants et écoliers se plaignent de maux de tête, nausées, étourdissements, palpitations et autres symptômes survenus après l'installation du Wi-Fi. Il y a même eu 7 arrêts cardiaques chez des écoliers de la région de Collingwood, en Ontario. Les cardiologues ne savent pas ce qui se passe, nous a confié la toxicologue environnementale Magda Havas, qui est professeure d'études environnementales et des ressources à l'université Trent, en Ontario. Un peu partout dans le monde, un nombre croissant d'écoles, d'organismes et de gouvernements, dont celui de l'Allemagne notamment, boudent, déconseillent ou interdisent le Wi-Fi. Ils recommandent les connexions câblées, ce qu'on appelle Ethernet, qui sont plus rapides, plus saines, sans radiofréquence, et moins vulnérables au piratage. À l'école primaire Deercroft Montessori à Oakville, en Ontario, les plus jeunes élèves, c'est-à-dire ceux qui sont les plus sensibles aux ondes, n'utilisent que des connexions Ethernet, et la direction limite le temps d'utilisation du Wi-Fi des plus vieux. En 2013, le syndicat des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario demandait aussi que le Wi-Fi soit interdit dans les salles de classe. Les enseignants disent avoir été menacés de perdre leur emploi pour s'être plaints de symptômes associés aux émissions de Wi-Fi. En première américaine, le 9 septembre dernier, le Los Angeles Unified School District, LAUSD, adaptait la classe d'une enseignante devenue électro-hypersensible ORF, c'est-à-dire les radiofréquences, en débranchant le routeur Wi-Fi qui lui occasionnait des problèmes cardiaques. Des écoliers ont des saignements de nez et la direction refuse d'en faire rapport. J'en ai même eu 2 en 7e année qui saignaient des oreilles, avait déclaré l'enseignante Anora Lawson. Selon le site rfemf.com de l'ingénieur en informatique californien Paul McGavin, dans certaines écoles, l'exposition cumulative aux émissions de Wi-Fi peut dépasser de plus de 1000 fois les normes nord-américaines. Ce qui, selon plusieurs experts, comme le docteur Miller notamment, mettrait la santé publique en péril. L'idéal est une exposition en deçà de 10 microwatts par mètre carré, selon McGavin, et des organismes comme l'Association médicale autrichienne. Or, à 2 pieds, c'est-à-dire à 60 cm, d'un modem ou routeur Wi-Fi, ou d'une tablette en mode Wi-Fi, le niveau d'exposition peut atteindre jusqu'à 50 000 microwatts, soit assez pour déprimer le système immunitaire. Cela, selon une étude russe publiée en 1974 et mentionnée sur le site wifiinschools.com. Le Code de sécurité 6 de Santé Canada, qui ne vise qu'à éviter l'échauffement des tissus, permet des expositions de 10 millions de microwatts. À partir des données scientifiques actuelles, les scientifiques de Santé Canada ont conclu qu'une exposition à l'énergie RF, donc aux radiofréquences, au niveau permis par le code de sécurité 6, n'entraînera aucun effet néfaste sur la santé, affirme sa porte-parole Sarah Lauer. Pourtant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, des milliers d'études scientifiques ont lié l'exposition prolongée à de faibles doses de radiofréquences à divers malaises et maladies. À sa grande surprise, le pédiatre neurologique Martha Herbert, experte en autisme à l'Université Harvard, a pu recenser plus de 250 études liant ce trouble à l'exposition aux radiofréquences et autres champs électromagnétiques. Le docteur Anthony B. Miller, qui a 83 ans, dit ressentir une responsabilité envers le public. Pour plusieurs expositions aux agents cancérogènes, il a fallu 20 ou 30 ans de recherche pour confirmer le lien. Le cancer prend des années à se développer. Moi, je ne serai pas ici dans 30 ans.
temps sur les allures qui se pressent, les phares en dalle de caisse, les regards qui s'échappent d'urbain paranoïa.
Pour faire suite, en fait, à l'article d'André Fauteux sur l'exposition des enfants au Wi-Fi, il convient, en fait, de prendre quelques précautions en l'absence d'éléments scientifiques, bien sûr, qui mettent en évidence la nocivité du Wi-Fi. Les précautions principales, disons, à retenir seraient limiter les durées d'exposition en temps nécessaire pour les usages, ne pas laisser la bande active, donc la bande routeur, en dehors des plages d'utilisation. Il est aussi question de se situer à bonne distance de la borne. D'autre part, ne pas placer l'ordinateur portable sur les genoux de l'utilisateur. Souvent, on voit des jeunes, où on parlait des femmes enceintes tout à l'heure, ne pas placer donc l'ordinateur portable sur les genoux de l'utilisateur, ni au contact de la peau, donc au plus près de la source des émissions Wi-Fi de l'ordinateur. Car en fait, la dose de rayonnement subie serait équivalente à celle résultant de l'exposition au rayonnement d'un téléphone mobile, dont l'usage est déconseillé, notamment en passant pour les enfants de moins de 15 ans. Et en ce qui concerne d'autres informations, idéalement, installer une prise Ethernet par salle de classe quand il est question des classes, du Wi-Fi aux classes.
Alors, dans un autre ordre d'idées, on va parler un petit peu de thé. Quand le thé glacé rend malade, par Christine Hanfield, qui a été parue le 21 avril dans la Presse Plus. Une étude publiée dans la dernière mouture du New England Journal of Medicine rapporte un cas saugrenu. Un Américain a gravement endommagé ses reins après avoir consommé des quantités excessives de thé glacé. En mai 2014, l'homme de 56 ans s'est présenté dans un hôpital de l'Arkansas avec des symptômes de faiblesse, de fatigue et de douleurs généralisées. Des tests ont révélé qu'il avait des taux anormalement élevés de créatine dans le sang et de cristaux d'oxalate de calcium dans l'urine. Une biopsie a confirmé la présence de cristaux d'oxalate dans les reins, ce qui a permis d'établir un diagnostic de néphropathie, première cause d'insuffisance rénale dans le monde occidental. Le patient a subi d'urgence des traitements de dialyse. Les médecins ont d'abord soupçonné une intoxication à l'antigel, dont le principal ingrédient, l'éthylène glycol, provoque l'accumulation de cristaux d'oxalate de calcium dans les reins. Le patient a assuré n'en avoir jamais consommé, mais il a admis boire quotidiennement 16 verres de thé glacé. Il le préparait lui-même avec du thé noir sans sucre. Le thé noir est une riche source d'oxalate, un sel organique, tout comme les épinards, les arachides et certains fruits. Dans le passé, des cas de néphropathie causée par la consommation de caramboles, de rhubarbe et d'arachides ont été répertoriés. Le cas présenté ici est presque assurément causé par la consommation excessive de thé glacé, écrivent les chercheurs, selon qui le patient devra probablement subir des traitements de dialyse pendant le reste de sa vie. Alors, rebonjour. Comme je disais en début d'émission, on va voir les deux côtés de la médaille de la musculation. Dans un premier temps, un article d'Alexandre Vigneault, paru dans la Presse Plus le 16 mai dernier, qui s'appelle « L'éloge trompeur de la bédaine de bière ». Donc, on en a parlé, je pense, un peu partout. Je l'avais vu à Jimmy Fallon, en fait, ce sujet-là. Les hommes subissent une pression grandissante pour avoir un corps parfait. Des magazines masculins présentent d'ailleurs mois après mois des exercices faciles pour se sculpter des abdos d'enfer. C'est terminé tout ça. En 2015, l'homme idéal, c'est encore Leonardo DiCaprio, mais avec une bédaine de bière. D'où sort cette idée qui fait fureur sur l'Internet depuis deux semaines? D'un blog qui faisait l'éloge du « dad bod », de « dad body », corps de papa. Mackenzie Pearson a observé les gars que sa coloc, une admiratrice du dad bod, trouvait attirants et a exposé les raisons pour lesquelles les femmes craquent pour ce physique, disons, ordinaire. En gros, le gars au corps coussiné envoie le signal qu'il s'entraîne, mais saute volontiers des séances pour prendre une couple de pointes de pizza arrosées de bière. Il n'est pas obèse, mais ne ressemble pas à ceux qui soulèvent des poids en se regardant dans le miroir. Auprès de lui, une fille a toutes les chances de paraître plus mince. Le texte de Mackenzie Pearson a eu un écho dans quantité de médias américains, même Jon Stewart et Jimmy Fallon en ont parlé, et ailleurs dans le monde. En moins de temps qu'il en faut pour dire buzz, ce simple texte passait pour un phénomène de société. Marc Lafrance, sociologue de l'Université Concordia, constate que l'Américaine s'appuie sur une vision hautement traditionnelle des relations hommes-femmes. D'un côté, des femmes préoccupées par leur physique et en quête d'un homme à marier. De l'autre, un gars qui aime la bière, le sport et ne se soucie pas trop de son apparence. Cette vision du genre et de la sexualité suggère que les relations hommes-femmes n'auraient que très peu changé au cours des dernières années, marque Lafrance, sociologue. Ça suggère que le féminisme n'aurait eu que très peu d'impact sur la société nord-américaine et que les masculinités multiples dont on parle depuis un certain temps n'existent pas ou ne devraient pas exister, observe-t-il. Une vision rétrograde. À son avis, il s'agit d'une lecture rétrograde des relations hétérosexuelles et il doute qu'elle représente la réalité. Sans doute que beaucoup d'individus s'identifient à cette vision des rapports hommes-femmes, mais des données scientifiques montantes montrent qu'une masse critique d'hommes et de femmes la rejette, fait valoir le sociologue. Cet éloge du « dad bod », remarque Marc Lafrance, condamne aussi parfois ouvertement et parfois de manière implicite le fait que la masculinité est en train de changer. Beaucoup d'hommes refusent de vivre juste pour la bière et le sport. Ces hommes apprivoisent la cuisine, prennent soin de leur corps, valorisent davantage la communication et la réflexion, expose-t-il. Ces hommes ne sont pas des hommes féminisés, ils reflètent des réalités de notre époque. Sur les réseaux sociaux et ailleurs, plusieurs ont souligné que cet éloge de l'homme coussiné s'appuie sur une vision sexiste. Si la fille aime le gars plus rond, c'est que les pressions qu'elle subit pour être belle, lire mince, l'insécurisent. D'ailleurs, ferait-on l'éloge du mom bod avec son petit ventre mou, parfois strié de vergetures? Encore une fois, c'est deux poids, deux mesures. L'enthousiasme stupéfiant autour du dad bod, présenté comme corps vrai, Marc Lafrance l'explique de deux façons. Il s'agirait d'abord d'une réaction contre le corps plus ou moins réaliste, valorisé par l'industrie des cosmétiques, la mode, les magazines et la pornographie. Mais ce discours lui semble aussi nostalgique. une nostalgie des relations hommes-femmes traditionnelles et d'un modèle d'hétérosexualité plus simple, analyse-t-il, comme celui qu'on voyait il y a 20 ans et surtout avant l'effondrement économique de 2008 qui a suscité d'énormes changements à l'égard des rôles des genres, du marché du travail, de la structure familiale, etc. Sexiste envers les femmes, critique envers les hommes, cet éloge de l'homme à la petite bédaine, qui n'est plus ou moins qu'un faire-valoir de la femme mince qui l'accompagne, ne serait pas aussi libérateur qu'il en a l'air. Il se caractérise finalement par une condamnation assez rude de ces hommes qui privilégient un modèle de masculinité plus recherché, conclut Marc Lafrance. Alors maintenant, l'autre versant de la montagne, ceux qui parlent des bienfaits de la musculation, par Chantal Guimont, dans la Presse Plus de mardi le 14 avril. Les gens qui décident de se mettre en forme se concentrent souvent sur les activités cardiovasculaires, celles qui font augmenter le rythme du cœur et de la respiration, et oublient de travailler leur musculation. Les exercices cardiovasculaires sont très importants. Ils permettent de brûler des calories, d'améliorer la tension artérielle, de diminuer le risque de diabète et de problèmes de cholestérol. Des exercices de musculation doivent être ajoutés aux exercices cardiovasculaires afin de favoriser une mise en forme complète. Ainsi, ils devraient être intégrés à votre programme d'entraînement à raison de 2 à 4 fois par semaine. Les bienfaits des exercices de musculation sont multiples. En fait, ils sont essentiels. En plus de soutenir toute notre ossature, une bonne musculature permet d'éviter bien des blessures et retarde la perte d'autonomie liée à l'âge. Une bonne masse musculaire contribue également à accroître l'équilibre et le métabolisme de base. Votre corps consommera ainsi plus d'énergie, même au repos. Plus de calories sont ainsi dépensées dans une journée seulement parce que plus de muscles nécessitent un entretien. Vous pouvez imaginer l'effet sur le poids chez celles et ceux qui tentent de perdre quelques kilos. L'évolution musculaire. Notre corps est constitué de 640 muscles qui représentent à eux seuls 30 % du poids d'un jeune adulte en bonne santé. Malheureusement, avec l'âge, s'installe une fonte musculaire. Elle est sournoise et passe inaperçue au début. Pourtant, dès l'âge de 30 ans, nous perdons de 3 à 8 % de nos muscles chaque décennie. Perdre 8 % de muscles entre 30 et 40 ans et 8 % supplémentaires entre 40 et 50 ans, c'est énorme. Ceux-ci sont le plus souvent remplacés par de la graisse. Cette perte s'accélère à partir de 50 ans et atteint de 1 à 2 % par année par la suite. À quoi est due cette fonte musculaire? Le muscle est en renouvellement perpétuel, c'est-à-dire que les fibres musculaires endommagées sont détruites par l'organisme et remplacées par de nouvelles tous les jours tout au long de notre vie. Avec l'âge, cet équilibre entre la destruction et le remplacement est fragilisé par une diminution de la fabrication de protéines au niveau du muscle. Les causes de ce déséquilibre sont multiples. Alimentation déficiente, manque d'activité physique et diminution de la sensibilité du muscle aux hormones qui contribuent à sa fabrication.
Merci Louise. Après cet exercice de muscles, si je peux dire, je vais aborder la question du système nerveux par rapport au stress. Alors voilà un article que j'avais en archive de février 2013, je dois dire, mais de Ginette Pelletier, qui est naturopathe, mais que j'ai relevé. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle un petit peu de comment nous sommes faits, de quoi nous sommes faits, comment fonctionnons-nous. Le système nerveux simplifié, le système nerveux est à l'image d'un grand réseau souterrain ou d'un réseau informatique qui gouverne la communication entre l'intérieur et l'extérieur. Imaginons le pouvoir que chacune de ces connexions exerce sur nous. Il nous suffit simplement de penser à faire quelque chose pour que l'action se produise instantanément par le biais de cet incroyable réseau. Ce système biologique animal est en effet responsable de la coordination des actions de notre environnement externe et de la communication rapide entre les différentes parties du corps. On le qualifie d'animal car il est présent chez presque tous les êtres vivants se nourrissant de substances organiques. Ce grand réseau est à l'origine de ce qui constitue l'essentiel de la condition humaine, soit les comportements, les émotions, l'intellect, la représentation, les valeurs et la culture. Nous ne sommes pas sans savoir que ce grand réseau est composé du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Le premier comporte le cerveau et son prolongement naturel, la moelle épinière, situé au centre de notre colonne vertébrale qui lui sert d'armure. Le système périphérique, lui, fait référence aux nerfs qui sont en périphérie du système nerveux central. Ces nerfs sont responsables de recueillir l'information et de la diffuser, formant ici un réseau de communication complet. Cette communication se fait par le biais de deux sous-catégories. Le système somatique est en charge des relations entre l'organisme et le milieu extérieur, ce qui nous permet de bouger, tandis que le système végétatif est responsable des communications internes, contribuant à l'équilibre des activités comme la digestion, la respiration, la circulation sanguine, l'excrétion ou la sécrétion d'hormones. Quand on parle de système somatique, on fait référence au corps purement organique, au physiologique. Considérant que les communications sont omniprésentes dans notre société, nous pouvons un peu mieux comprendre la nature du stress et tout ce qu'il impose à notre organisme. Alors que la médecine occidentale accorde très peu d'attention aux glandes surrénales, l'approche préventive et la tradition orientale considèrent que ces glandes jouent un rôle très important dans la sécrétion des hormones du stress. Le système sympathique qui orchestre la réponse de fuite ou de lutte face à un stress important engendre des réactions d'inconfort sous l'effet de l'adrénaline, par exemple le cœur ou l'intestin. L'énergie émise en réponse à un stress demeure disponible dans le corps pendant plusieurs mois, voire quelques années, et peut ainsi causer un épuisement des glandes surrénales. Bien que la sensation d'être sur adrénaline soit agréable, nous devons rester vigilants puisqu'une production continuelle de cortisol, donc l'hormone du stress, fatigue les glandes. Cet état d'alerte peut mener au syndrome de fatigue chronique, un déséquilibre hormonal et thyroïdien qui perturbe la vie de plusieurs personnes. Le système parasympathique est le complément du système sympathique, donc celui qui organise le végétatif et l'organique. Son activation par le biais d'un neurotransmetteur appelé acétylcholine, donc c'est un peu scientifique, induit un ralentissement général des fonctions de l'organisme afin de conserver l'énergie et d'augmenter l'activité digestive et l'appétit sexuel. Quelques symptômes observables, on parle du stress bien entendu toujours. Sueur nocturne abondante, sensibilité accrue aux allergènes, sensibilité accrue à la lumière, rage de sucre, de sel, de café ou d'aliments vides et également d'alcool. Il existe plusieurs plantes pour aider les glandes surrénales, comme le ginseng de Sibérie notamment, figurant parmi les plus connues. Elles soutiennent le système immunitaire tout en réduisant l'effet du stress sur l'organisme, normalisant les inconforts physiques et psychiques, augmentant l'énergie, protégeant l'organisme contre les polluants environnementaux, régularisant le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. La nature simplifiée de notre système nerveux nous rappelle que l'harmonie est de mise entre ces deux systèmes de communication pour ainsi vivre en symphonie de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'on appelle une santé optimale. Conseil pour transformer son quotidien. Respirez consciemment, car le souffle est un outil puissant pour combattre le stress. Pratiquez le yoga, si vous le pouvez. Dormir suffisamment, on ne le dira jamais assez, soit de 7 à 8 heures par nuit, mais ça peut être également de 6 à 7 heures. Apprendre à écouter ses limites et à dire non. Manger de 7 à 10 portions de légumes et de fruits par jour. Méditer de 10 à 20 minutes par jour pour observer ses pensées, faire un effort pour transformer les pensées négatives. Apprendre à vivre l'instant, présent, comme les enfants le font si bien. Et ne jamais hésiter à demander de l'aide lorsqu'on est en difficulté.
Elle elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77.
Michel Sardou avec La maladie d'amour, quelle belle chanson pour vous amener mon prochain sujet. En fait, c'est une enquête du magazine FA de mai 2015. Avec l'arrivée du printemps, bien entendu, le magazine FA a produit une enquête « Quand la chimie explique l'amour ». Alors, les regards se croisent, un frisson parcourt la colonne vertébrale, les joues s'enflamment, le cœur bat à tout rompre, les mains deviennent moites, ça y est, on vit un coup de foudre. C'est électrique, on sent la chimie passer. Et si c'était réellement le cas? Avis aux âmes romantiques, bien qu'un tantinet magique, l'amour est avant tout chimique. Alors le coup de foudre, pourquoi est-on attiré par un individu plus qu'un autre? Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question pour expliquer le coup de foudre. Parmi eux, la biologiste américaine Dan Masler, qui avance qu'il s'agit d'une compatibilité biologique déterminée par le cerveau et les cinq sens, donc en six étapes la vue, pour évaluer la jeunesse, la vitalité, la fertilité d'un prétendant. En de l'odorat, qui capterait les phéromones, ces substances chimiques qui contribuent à l'attraction sexuelle. En trois, l'ouïe, qui serait sensible aux voix aiguës des femmes et aux tonalités graves des hommes. En quatre, le toucher, dans la mesure où il transmet de la chaleur. En cinq, le baiser pour échanger les indices chimiques, de l'odorat et du goût. Et finalement, en six, l'attraction durant laquelle la noradrénaline, un neurotransmetteur qui est activé pour jouer un rôle dans l'excitation. Mais a-t-on vraiment du pif en amour? Comme Don Masler et de nombreux autres auteurs, Madame Vincent croit que l'influence des phéromones dans le processus de séduction. Est-ce vraiment prouvé? Aucune étude scientifique ne démontre que les phéromones accentueraient l'attirance entre deux personnes. Avec l'évolution, le niveau d'olfaction a considérablement diminué chez les humains. comparativement aux animaux et aux insectes, pour qui ces substances chimiques jouent un rôle fondamental pour la reproduction. Avec l'atrophie de notre organe nasal, il est presque impossible de percevoir les phéromones de quelqu'un d'autre dans une foule. L'odeur corporelle devient importante quand le temps devient de confirmer ou d'infirmer notre choix dans la bulle d'un prétendant. Par exemple, une femme pourrait tomber sous le charme d'un Brad Pitt, mais si en s'approchant de lui, il sent mauvais, la magie va automatiquement s'estomper, nuance la chimiste québécoise Normand Voyer, professeur au département de chimie de l'Université Laval. La chimie de l'attraction. Qu'est-ce qui nous induit précisément cette forte attirance qui nous fait perdre tous nos moyens devant une personne en particulier? Un débalancement chimique. N'importe quel mouvement ou aliment ingéré altère l'équilibre de notre corps. L'amour y compris, explique le professeur qui présente d'ailleurs des conférences sur la chimie de l'amour destinées aux étudiants et aux adultes dans toute la province. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui correspond à nos critères, notre cerveau sécrète des substances chimiques, plus particulièrement quatre molécules neuroactives qui prennent le contrôle de tout l'organisme. D'abord, la dopamine qui agit sur les transmissions nerveuses. Ensuite, la mini-flétanine, considérée comme la molécule du coup de foudre, qui produit un état de bien-être inégalé. Cette amphétamine donne le sentiment de flotter sur un nuage et que plus rien n'est grave. La néroéphédrine, quant à elle, produit un effet euphorisant. Elle pousse les amoureux à faire des folies et à poser des gestes qu'ils n'oseraient pas envisager dans un état normal. Enfin, l'adrénaline augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle. Elle explique donc les rougeurs devant un prétendant intéressant. La passion. Toute bonne chose a une fin et le coup de foudre n'y échappe pas. Selon la plupart des recherches au sujet de l'amour, la période de passion amoureuse durait en moyenne 3 ans, parfois jusqu'à 4 ans, dans les unions les plus chanceuses. Des études ont démontré qu'après 18 mois, on trouve de moins en moins ces molécules du coup de foudre dans l'organisme des sujets amoureux. Le corps a repris son équilibre chimique et s'est adapté. Après 4 ans, rares sont les couples qui présentent ces molécules du coup de foudre, souligne M. Voyer. Lucie Vincent reconnaît également que le cerveau se désensibilise à la dopamine et l'adrénaline que ces molécules agissent pendant environ 3 ans. Elle ajoute que cette durée correspond au temps nécessaire pour qu'un enfant né de l'union d'un couple puisse se débrouiller seul avec un unique parent. Pour la survie de l'espèce, la relation n'aurait donc pas sa raison d'être au-delà de cette période. L'attachement. Pourquoi alors les couples durent-ils au-delà de 3 ans? Lucie Vincent considère l'oxytocine comme une molécule magique. C'est grâce à elle que les relations persistent. Elle génère d'ailleurs le sentiment amoureux. La neurologue explique que contrairement aux autres hormones, l'oxytocine n'est pas sécrétée de façon spontanée chez les humains puisqu'il faut stimuler sa production par les câlins et la tendresse. Les baisers, les caresses et les massages réveilleraient le corps et ses récepteurs sensoriels pour qu'une réaction chimique lui permette d'agir. Aussi appelées hormones de l'attachement, elles incitent à la dépendance. Alors, plus on se colle, plus on en veut et moins on s'éloigne. Madame Vincent ajoute que l'oxytocine est l'hormone du premier attachement qui lie l'enfant à sa mère. Elle se déclenche aussi lors de l'orgasme. Des neurobiologistes auraient clairement établi le lien entre sa sécrétion et ses répercussions physiologiques et surtout émotionnelles. L'oxytocine est la molécule qui m'intéresse le plus dans l'amour. Elle agit différemment de celle impliquée dans le coup de foudre. Durant l'accouchement, c'est elle qui provoque les contractions. À forte dose, elle contracte les muscles, mais à faible dose, elle les détend, ce qui procure un sentiment de bien-être avec notre partenaire. Elle contribue à entretenir la flamme, mais ce n'est pas plus la passion, c'est différent. L'amour a alors atteint un autre niveau, témoigne le chimiste Normand Voyer. Drogué à l'amour, si de nombreux couples réussissent à demeurer solides bien au-delà de 3 années passionnelles, certaines ne passent pas ce cap. Peut-être leurs membres sont-ils drogués à l'amour et recherchent-ils continuellement des sensations fortes. Possible puisque des gens sont réellement accros au coup de foudre. C'est comme une drogue. Quand le boss diminue, certaines personnes en veulent encore. C'est une accoutumance. Elles vivent des coups de foudre à répétition. Accro ou pas, aucune personne n'est à l'abri de ce phénomène. Le phénomène du coup de foudre, bien sûr. Mais celles en couple. On peut l'amener, par contre, contrairement aux animaux, les humains, eux, possèdent la capacité de contrôler leurs émotions, rappelle M. Voyer. Serait-ce cette dépendance aux molécules chimiques du coup de foudre qui entraînerait l'infidélité? L'humain est-il destiné à la monogamie? Sur la planète, seulement 3% des mammifères sont monogames. Et l'homo sapiens n'en fait pas partie. Scientifiquement, des substances qui pourraient être à l'origine de la monogamie, comme la vasopressine, ont été identifiées dans le cerveau d'espèces monogames. Mais le sujet devait être très davantage exploré. Si l'humain n'est pas monogame d'un point de vue scientifique, encore plusieurs recherches doivent être entreprises pour bien comprendre pourquoi, explique le spécialiste Voyer.
Vous dites, voici une petite brève que j'ai pigée dans l'actualité du 15 mai. Geoff Herbert, qui commente sur Internet les matchs de l'équipe de basketball de l'Université de Syracuse, on n'est plus dans l'amour, à New York, a un talent que les autres journalistes n'ont pas. Il lit sur les lèvres. Grâce à ce blogueur, sourd de naissance, les partisans de l'équipe peuvent savoir en temps réel ce que l'entraîneur dit à ses joueurs et aux arbitres, ce qui ajoute du piquant à l'écoute d'un match. Amende honorable. Oui, on vante une fois de plus la petite poignée de noix comme collation de choix. Une nouvelle étude publiée dans le journal of the American Heart Association avance qu'une saine alimentation comprenant une collation quotidienne d'amandes plutôt qu'un aliment riche en glucides contribue à diminuer les facteurs de risque de maladie du cœur. Après avoir suivi 52 adultes en surpoids durant 12 semaines, les chercheurs de l'Université Penn State aux États-Unis ont établi qu'une collation composée de 1,5 once d'amandes était davantage bénéfique qu'un muffin contenant le même nombre de calories. En effet, les amandes contribueraient notamment à diminuer le mauvais cholestérol et à réduire le taux de graisse abdominale, des facteurs bien connus des risques de maladies du cœur.
Alors, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à Anne-Marie et à merci. Christine. Et merci à Jean-Sébastien pour la technique, toujours excellente. Alors, pour avoir accès aux émissions, vous pouvez aller à canalm.org et faire des commentaires. Vous pouvez écrire à canalm@vuesetvoix.com. Vuesetvoix.com. Il y a une reprise de l'émission à 13h et à 21h aujourd'hui. Alors, on vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.